Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue chaleureusement. Face au coronavirus, parlons-nous vraiment comme Dieu l'attend. Comme vous, je suis très attentif aux messages qui s'élèvent de toutes parts pour encourager le peuple de Dieu. Nous traversons des temps effroyables et nous n'en sommes qu'au début. Deux autres vagues incontrôlables vont déferler sur notre monde, moins fortes que celles que nous vivons actuellement, mais tout aussi terrifiantes et dévastatrices. Il faut nous y préparer. Ici, nous entendons des paroles de consolation. Et combien en ont besoin alors qu'un être cher a été emporté en quelques jours par le Covid-19. Que le Dieu de toute consolation les console dans leur affliction, comme le dit l'apôtre Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 3. Là, nous recevons une exhortation à fuir la crainte, à triompher de nos peurs, le tout appuyé de multiples versets de l'Écriture. Comment ne pas accueillir un tel réconfort? L'incrédulité, le doute, la frayeur déshonorent notre Dieu. Qu'ils soient donc bénis, tous ceux qui stimulent le peuple de Dieu et le poussent à faire pleinement confiance à un Dieu protecteur. Plus loin encore, certains brandissent avec force l'étendard de l'espérance. « Osez l'espérance », nous disent-ils. « Amen, amen ». Sans espérance, véritable ancre de l'âme, que deviendrait l'enfant de Dieu ? Un frêle esquif voué au naufrage. Maintenant, qu'en est-il de Dieu et du coronavirus ? La parole de Dieu nous dit, au psaume 29, verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Pouvez-vous imaginer cette scène effroyable, des hommes, des femmes, des enfants sombrant dans les eaux, et Dieu sur son trône? La Bible dit « Un filet monte-t-il du sol sans faire une capture ? Sonne-t-on du cor dans une ville sans que le peuple tremble ? S'il arrive un malheur dans une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui l'a fait ?» Amos, chapitre 3, versets 5 à 7. Dieu serait-il étonnamment absent, irresponsable de cette pandémie? Quel pasteur, quel chrétien oserait proclamer une telle ineptie? Dieu est sur son trône. Un virus lui a suffi pour ébranler la terre. Voici les nouvelles, je mets le mot « nouvelle » entre guillemets, qui nous parviennent. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Psaume 2, les versets 1 à 5. L'humanité s'est enfoncée avec effronterie et arrogance dans le péché. Dieu se fâche. Nous touchons le fond de la corruption, de l'immoralité. Dieu nous dit plus haut et plus fort que jamais ce qu'il en pense. N'en déplaise à ceux qui se veulent les avocats d'un Dieu qu'ils créent à leur image. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, avait prophétisé Jésus, Luc chapitre 21, verset 25. Aujourd'hui, les sommités médicales, les scientifiques, les politiques, les économistes sont dépassés, submergés par ce tsunami imprévisible. Les chercheurs sont pris de vitesse. La Bible dit « Voici, les nations sont, devant l'Éternel, comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Ésaïe chapitre 40, les versets 15 et 17. Qui a chargé Dieu de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? La parole de Dieu dit encore, « En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il brise les grands sans information. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. » Job, chapitre 34, les versets 20 à 29. Vous savez, la Bible ne fut pas achevée avec l'épître de Jude. Nous goûtons aux prémices de l'Apocalypse. Dieu a jugé le monde de Noé. Il a jugé la société de Sodome et Gomorre, les empires perses, romains et grecs, pour ne citer que cela. Pensez-vous vraiment qu'il ferme les yeux avec complaisance sur la souillure de notre monde? La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus, dit le prophète Ésaïe, chapitre 24, les versets 19 et 20. Dieu n'afflige pas volontiers ses créatures. Il est amour, mais il est juste et saint. Il n'exerce pas ses jugements avec plaisir. D'ailleurs, celui ou celle qui observe attentivement les lois gouvernementales de Dieu découvre que la grâce est toujours mise en réserve dans des temps de jugement. Certes, il n'a pas épargné l'ancien monde lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, nous dit l'apôtre Pierre dans sa seconde lettre au chapitre 2, verset 5. Mais la grâce de Dieu était là, patiente, accueillante, généreuse, pendant tout le temps de la construction de l'arche. Pendant des décennies, Noé fut un prédicateur de la justice, comme le précise encore l'apôtre Pierre dans sa seconde lettre au chapitre 2, verset 5. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Si plusieurs, si beaucoup, s'étaient repentis, ils auraient été sauvés. Si tous s'étaient repentis, le jugement aurait été annulé. Oui, Dieu allait frapper Ninive. Le compte à rebours était déclenché. Il restait 40 jours avant que cette société corrompue ne soit entièrement détruite. Mais, depuis les membres du gouvernement d'alors, jusqu'au plus insignifiant des membres de la cité, tous prirent Dieu au sérieux. Le message du prophète Jonas n'était pas une mauvaise plaisanterie. Ils crurent Dieu, publièrent un jeûne, se repentirent et revinrent de leur mauvaise voie. Et le jugement fut écarté. Ô Jérusalem, quels jours terribles sont venus sur toi! Tes ennemis t'ont environné de tranchées, ils t'ont enfermé et ils t'ont serré de toutes parts, ils t'ont détruite, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils n'ont pas laissé en toi pierre sur pierre. Luc, chapitre 19, versets 43 et 44. Mais pourquoi donc toutes ces horreurs? Jésus l'a dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc chapitre 19, verset 44. Il a pleuré sur Jérusalem, déclarant, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Luc 19, 42. Ton Messie, Jérusalem, a voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. La grâce était là, à portée de cœur, à portée de foi, le jugement, lui, n'était pas loin. Et que dire de Jézabel, qui s'était autoproclamée prophétesse dans l'église de Thyatire? Elle avait pris bien du pied dans la chaussette au sein de cette assemblée, au point d'enseigner et de séduire les serviteurs de Dieu, les entraînant à l'impudicité et à l'idolâtrie. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Le jugement divin n'était pas loin. Jésus dit: voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Mais plus proche était la grâce. Écoutez ce que dit le Seigneur: je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Apocalypse chapitre 2 versets 21 et 22. Dans son amour et dans l'exercice de sa grâce, Dieu patiente. Le Saint-Esprit annonce des temps effroyables pour notre planète. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Concernant la promesse du retour de Jésus-Christ, la Bible ajoute: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. À la croisée des chemins, lorsqu'il fallait choisir entre la grâce et le jugement, la vie et la mort, qu'a fait le peuple d'Israël? Il y eut des temps où le peuple de Dieu a réagi comme Dieu l'attendait. En proie à des jugements terribles, Israël est revenu à Dieu, car il s'agissait bien de cela, revenir à Dieu. Le livre des Juges, entre autres, en est le reflet. La Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishéataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Juges chapitre 3 versets 7 à 9. Plus tard, après d'autres jugements, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Juges chapitre 3 verset 15. Cette phrase, ou plutôt cette démarche de retour à Dieu, est comme un refrain tout au long du livre des Juges. Mais il y eut des périodes où, dans lesquelles le peuple de Dieu a endurci son cœur, malgré les fléaux envoyés par Dieu. Le péché était au milieu des siens, comme une lèpre invétérée, et Dieu a alors frappé. Non pas pour détruire, mais attendant la repentance de son peuple. Il a envoyé la famine dans toutes les villes. Le peuple n'est pas revenu à Dieu. Il a envoyé la sécheresse. Malgré cela, le peuple ne s'est pas repenti. Il a frappé par la rouille et par la nielle. Les jardins, les vignes, les figuiers, les oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Et Dieu dit: malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Alors, il a envoyé la peste. Les jeunes gens ont été tués par l'épée. L'Éternel a fait monter aux narines d'Israël l'infection de son camp. Le peuple n'est pas revenu vers son Dieu. Dieu l'a alors bouleversé comme Sodome et Gomorre. En vain. Le prophète Amos déclare de la part de l'Éternel pour la cinquième fois dans le chapitre 4 de son livre « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi ». Amos, chapitre 4, les versets 6, 8, 9, 10 et 11. L'Esprit de Dieu est en train de sonner de la trompette. Voici venu, je le crois, un temps de repentance. Notre monde est actuellement sous un jugement divin. Comment en douter à la lumière de l'Écriture? Mais ne nous voilons pas la face. L'Église de Jésus-Christ n'est pas épargnée. Des pasteurs meurent, des chrétiens aussi. Je reçois quotidiennement des nouvelles alarmantes. Est-ce à dire que ceux qui nous quittent sont coupables? Que Dieu me garde d'une telle pensée. Mais nous devons réfléchir à l'étendue de ce fléau. Pourquoi touche-t-il aussi l'Église? J'entends de là de multiples voix, mais pourquoi ne serait-elle pas aussi touchée? Dans des périodes difficiles de l'histoire, l'Église est passée par des souffrances, des tribulations, des fléaux terribles. C'est bien évidemment une façon de se rassurer, et je comprends alors pourquoi certains continuent de s'agiter au sein de leur guitare dominicale, invitant le peuple de Dieu à se réjouir, à taper des mains comme s'il ne se passait rien et à ne pas oublier d'envoyer leur offrande par chèque. « Paix, paix, disent-ils, mais où est la paix ?» Je crois très sincèrement que Dieu attend autre chose de nous. Ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi alors ce peuple de Jérusalem se détourne-t-il en prolongeant indéfiniment son apostasie? Ils tiennent ferme leurs illusions. Ils refusent de se convertir. J'ai écouté attentivement. Ils ne parlent pas comme ils le devraient. Leurs propos sont inconsistants. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval emballé dans le combat. Jérémie, chapitre 8, les versets 4 à 6. Le monde a un besoin urgent de repentance. Mais qu'en est-il de l'Église? N'est-ce pas l'heure de nous poser la bonne question? Nous prions pour nous et les nôtres, afin que Dieu nous garde du coronavirus. Nous avons raison. Nous avons raison. Nous supplions le Seigneur d'user de miséricorde et de guérir ceux qui sont atteints du Covid-19. Nous avons raison. Nous sommes exhortés à l'espérance et à la foi. C'est indispensable. Mais où sont les voies nous amenant à une remise en question? Si l'Église vit l'Évangile, si les aveugles voient, si les boîtes marchent, si les sourds entendent, si les morts ressuscitent, si les incurables sont miraculés, si des foules de pécheurs notoires sont saisies par une profonde conviction de péché et se convertissent au Seigneur, si, en d'autres termes, l'Évangile d'aujourd'hui vit l'Évangile proclamé par le Christ, l'Évangile vécu par la première Église, alors nul besoin de revenir à Dieu, il est au milieu des siens. Par ailleurs, si les croyants fuient le monde, son esprit corrompu, ses plaisirs et ses convoitises, s'ils marchent loin du péché et de la souillure, si, dans les communautés chrétiennes, dirigeants et membres ont confessé et abandonné tout péché connu, si la communion avec Dieu est l'axe central de toute vie chrétienne, avons-nous besoin de revenir à notre Seigneur? Nous vivons près de lui. Mais en est-il ainsi? Mon propre cœur me dit la nécessité de revenir à Dieu. Mon message aujourd'hui n'a pas pour but de pointer un doigt accusateur vers qui que ce soit. J'ai besoin d'un réveil dans ma propre vie. On nous appelle à consacrer une heure avec Jésus, un jour de la semaine, sans écran et sans connexion si possible. On nous invite à prendre notre Bible et à rester dans un endroit tranquille, dans la présence de Dieu. Soyez calme, nous dit-on, à l'écoute, dans une attitude de foi, et laissez Dieu agir en vous et autour de vous. Cette démarche spirituelle est intitulée « Retour à l'essentiel ». Serait-ce un aveu de l'abandon de l'essentiel par l'Église ? Une heure par semaine avec Jésus ? C'est mieux que rien, me direz-vous. Je vous l'accorde, c'est un bon début. Je souhaite qu'apparaissent ici les prémices d'une démarche plus profonde. Mais est-ce vraiment cela, le retour à l'essentiel, le retour à Dieu ? Dieu aimerait m'entendre dire « Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait de ma relation avec Dieu ? Qu'ai-je fait de la communion avec Jésus ? Qu'ai-je fait de la communication et de la vie du Saint-Esprit ? Qu'ai-je fait de la parole de Dieu, de sa lecture, de sa méditation ? Qu'ai-je fait des avertissements du Seigneur ? Qu'ai-je fait de ma conscience ? Qu'ai-je fait du péché ? Qu'ai-je fait de ma vie ? Ne nous y trompons pas, l'heure n'est pas à se trémousser, à sauter, à danser dans nos églises, travestissant la bonne nouvelle en un piteux carnaval évangélique. L'heure est venue de nettoyer nos mains, de purifier nos cœurs, de sentir notre misère, d'être dans le deuil et dans les larmes, comme nous y exhorte l'apôtre Jacques au chapitre 4, versets 8 et 9 de son épître. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, nous dit encore l'apôtre Jacques au chapitre 4, versets 9 et 10. L'appel du prophète Joël est d'une brûlante actualité. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs de l'Éternel et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Amen. Amen. »